Alors, ça vous rappelle des souvenirs l'an dernier. Pour nous, ça nous en rappelle d'autres, puisque on était à Milan cet été et on a vu en particulier la mosaïque dont on pense qu'elle reproduit les traits de ce haut fonctionnaire lettré, lui aussi helléniste, qui était devenu archevêque de Milan, plus grand diocèse d'Occident, et enfin de la capitale de l'Occident finalement, et qui dont les traits étaient tirés, fatigués. On voit vraiment l'homme qui s'était totalement donné à sa mission. Et Ambroise était un fin lettré, et c'est sûr qu'il va séduire le jeune Augustin par son éloquence.
Bon, là,
Oui, ah oui, bah oui, parce que finalement, alors il parle les deux langues, hein. Il parle aussi grec avec les hauts fonctionnaires de la cour, les ambassadeurs qui viennent de Constantinople, enfin bon, bref, tout ce monde-là. Et puis latin à ses ouailles qui sont enfin, des Italiens. Alors, Augustin est d'abord séduit par l'éloquence d'Ambroise, qui a beau être quand même une éloquence mesurée, celle d'un haut fonctionnaire, mais d'un haut fonctionnaire lettré. Et puis, justement, à travers cette éloquence simple, mais de bon aloi, par le contenu de l'enseignement d'Ambroise. Et en particulier, ce qui va séduire Augustin et répondre du coup à ces questions de jeunesse, c'est en quoi on peut lire cette espèce d'Ancien Testament dégoûtant sans prendre la fuite. Et comment? Eh bien, par ce que justement Ambroise a reçu des Grecs. N'oublions pas que Ambroise, bon, était aussi un catéchumène. Il était quand même plutôt occupé par ses affaires enfin, publiques. Hein. Il a fait son master d'affaires publiques, ça c'est clair. Et il avait dû faire quand même de la théologie plutôt de manière un peu comme vous, quoi. Hein.
En cours du
Voilà.
soir.
Et en cours du soir. Et devenu évêque au moment où il fallait pacifier le monde. Lombard, qui n'était pas encore envahi par les Lombards d'ailleurs, mais enfin l'Italie du Nord, qui était déchirée entre les Ariens et les catholiques, on avait donc eu l'idée de prendre ce haut fonctionnaire intelligent et calme pour mettre la paix dans l'Église. Et évidemment, il a pris les bouchées doubles pour rattraper son retard en théologie. Et il l'a fait aux meilleures sources, comme il parlait grec. Eh bien, il s'est fait apporter les ouvrages des pères de son temps, qui étaient très connus, hein, qui étaient ceux qu'on appelle les Cappadociens, hein, donc Grégoire de Nice, Basile, Grégoire de Nazianze, mais aussi Saint Jean Chrysostome, etc. Donc, c'est quasiment ses contemporains, et les a lus. Et alors, ce qui est intéressant dans l'œuvre de Saint Ambroise, c'est qu'essentiellement il écrit sur l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que globalement, ses inspirateurs grecs ont surtout travaillé l'Ancien Testament. Et en fait, on le voit très dépendant de ses sources. Très dépendant de ses sources. Et en pratiquant comme eux ce qu'on appelle l'exégèse allégorique, hein, empruntée à l'école d'Alexandrie, donc du siècle d'avant, Origène, bon, etc. Qui consiste à lire dans l'Ancien Testament une sorte de prophétie du nouveau. Autrement dit, l'Ancien parle en figure d'un élément qui va apparaître clairement dans le nouveau. Alors, je prends juste un exemple, celui que je prends toujours. Quand on dit le livre d'Ézéchiel que un torrent jaillira du côté du temple et ensuite ira comment dire, purifier tout jusqu'à la mer morte. Bon, très bien, c'est une jolie, sympathique prophétie d'Ézéchiel. une sorte de rêve. Voilà, bon. Mais l'exégèse allégorique, en mettant ça en rapport avec le Nouveau Testament, va trouver deux points, un point de passage et un point d'aboutissement. Le point de passage, c'est dans le chapitre 2 de Saint Jean, quand on dit, les apôtres disent, ah, regardez le temple, comme il est beau, etc. Et Jésus répond, en 3 jours, il sera abattu, et en 3 jours, je le rebâtirai. Très bien. Et ensuite, sur la croix, quand justement l'eau va couler du côté du Christ, sachant qu'au chapitre 2 de Saint Jean, Jésus avait dit qu'il était, enfin, il avait laissé entendre qu'il était ce temple. Autrement dit, le temple, désormais, c'est lui. Et à ce moment-là, ce que disait Ézéchiel d'une manière un peu poétique, devient extrêmement factuel, extrêmement, comment dire, historique, si on peut dire. C'est du côté du Christ, nouveau temple, rebâti en 3 jours, que va sortir cette source d'eau, hein, d'eau et de sang, qui va purifier jusqu'à la mer morte, puisque c'est par l'eau du baptême que nous sommes arrachés à la mort pour ressusciter avec lui. Donc vous voyez comment un texte de l'Ancien Testament, qui paraissait être une douce élucubration sur le futur, devient une réalité. Une réalité. Donc c'est comme ça que les pères de l'Église lisent l'Ancien Testament en le remettant continuellement en relation avec le Christ. Donc le Christ est le sens plénier de l'Ancien Testament. La même chose avec la Vierge Marie, hein, quand on dit dans Isaïe 7, je crois bien, ou 8, que la jeune fille enfantera, qu'on utilise du coup un terme en hébreu qui veut dire à la fois la Vierge et la jeune fille, voilà, qui va être traduit par Vierge en grec, qui demeure assez mystérieux du coup. En fait, on a l'accomplissement avec l'histoire de la mère de Jésus. Donc on a toute une série comme ça de textes qui sont énigmatiques, ou voire même carrément scandaleux. Hein. Saint Grégoire de Nice dit que certains textes qui posent problème, et on ne les sauve qu'en passant directement du sens littéral au sens allégorique. Voilà, c'est comme ça qu'Ambroise va permettre à Augustin de se réapproprier l'Ancien Testament et de voir comment les deux testaments se comprennent. Hein. On pourrait dire, Augustin utilisera cette formule, que l'Ancien Testament, c'est le mysterium velatum, le mystère caché, et que le Nouveau Testament, c'est le dévoilement du mystère. Voilà. Alors, donc il découvre que le christianisme n'est pas si puéril que ça. Et c'est alors que sa mère le rejoint, parce qu'elle devait se languir de son préféré, celui en qui elle avait mis le plus d'espérance, voyez-vous. Donc elle arrive en 385 à Milan, pour promouvoir sa carrière, vous savez, les mères peut-être méditerranéennes aiment bien prendre en main la carrière de leurs garçons quand elles repèrent qu'elles peuvent être prometteuses. Alors donc, dans ce plan de carrière, il faut déjà éliminer la concubine. Donc c'est chose faite. Et puis ensuite, pousser le jeune Augustin pour qu'il finisse par cesser de donner des cours, ça c'est... Ça ne mène pas long, hein. Mais qu'enfin il passe à la vitesse supérieure, c'est-à-dire devenir un haut fonctionnaire de la cour impériale. Elle met sur pied un projet de fiançailles avec une fillette de famille distinguée. Donc Augustin, en bon fils de mère méditerranéenne, se laisse faire un peu, hein, voilà. D'un autre côté, il continue d'être toujours intéressé par la vie de l'esprit. et un prêtre de Milan qui s'appelle Simplicianus. Alors je me demande d'ailleurs s'il ne succédera pas non plus à Ambroise, après avoir été son mentor, lui fait connaître l'œuvre d'un rhéteur, donc quelqu'un qui faisait le même métier que lui, Marius Victorinus, qui s'était converti en 355. Et là, il va découvrir le platonisme, donc pas le moyen platonisme, sceptique, etc., mais le vrai platonisme, même dans sa mouture néoplatonicienne, encore plus spirituelle, voilà, qui a une conception spirituelle et immatérielle du bien. Donc on se souvient qu'Augustin était gêné par la conception toujours matérialisante des doctrines manichéennes. Et là, il va découvrir que l'esprit est une réalité immatérielle. Alors, nous, ça nous paraît assez évident, mais c'est pour vous dire à quel point quand même le niveau des études dans l'Antiquité avait baissé, hein. C'est une évidence pour Platon, c'est une évidence pour Aristote, mais ça ne l'est plus au IVe siècle, au moins en province. Comment?
On en est là aujourd'hui.
Ah ben oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Et donc, le platonisme va répondre à sa question sur le mal, et il va découvrir que le mal n'est pas une substance qui s'opposerait à la substance bonne, mais c'est plutôt l'absence d'une substance bonne due à je dirais, à l'intégrité d'un être. Et donc le mal est perçu non pas comme une réalité de même niveau, mais comme l'absence d'un bien. Voyez? Et ça, c'est capital, hein. Ça sera la vision. Enfin, cette vision platonicienne va repasser, grâce à Augustin et au Père de l'Église, dans la pensée chrétienne. Et là, il se tourne vers Saint Paul, les lettres de Saint Paul, et il découvre que la doctrine de la grâce que développe Saint Paul correspond bien à ce qu'il a compris du platonisme, la grâce qui élève et qui divinise en un mot. Et là, dans sa réflexion, il découvre qu'il n'y a pas à choisir entre la raison et la foi, mais que l'un et l'autre, la raison et la foi, l'une et l'autre, sont complémentaires. Il aura cette phrase dans un de ses sermons, il dira intellige ut credas, crede ut intelligas. Hein? Comprends pour croire et crois pour comprendre. Alors, comprends pour croire, c'est un petit peu les préambules de la foi, montrer que la foi n'est pas irrationnelle, elle n'est pas absurde, mais il y a des pierres d'attente. Évidemment, c'était tout le mouvement des pères de l'Église grecque, hein, qui cherchent à trouver des sémina verbi, hein, comme des semences du verbe dans la pensée des grands païens. Donc, intellige ut credas, et ensuite, crede ut intelligas, crois pour comprendre. Pourquoi? Parce que la foi nous donne du grain à moudre, donne à notre raison du grain à moudre. Comme on n'arrive pas à tout savoir, eh bien, la foi va nous donner un surcroît de connaissances, notamment touchant les choses les plus élevées. Et du coup, on va pouvoir appliquer la raison, notre raison naturelle, sur un contenu qui nous est transmis de manière surnaturelle. Et l'application de la raison naturelle sur un contenu surnaturel, c'est ce qu'on appelle la théologie. Autrement dit, c'est la réflexion rationnelle sur le contenu de la foi. Et c'est cela que perçoit très vivement Augustin à travers ce petit détour par le platonisme. Alors, toujours, vous savez que Saint Paul a des pages très subtiles, très profondes sur la divinité, sur l'univers, enfin Dieu, moi et le monde, hein, tout ça. Mais en même temps, il y a des pages aussi assez terribles sur la mise en conformité de moi avec ce que je crois. Et là, Augustin comprend, non sans douleur, qu'il faut mettre sa vie en accord avec sa pensée. Vous voyez, il est très moderne, notre Augustin. Alors, à son ami Alipius, qui finira aussi évêque, hein, il dit soudain, après avoir découvert l'exemple de saint Antoine et l'exemple de hauts fonctionnaires convertis à Trèves, peut-être Jérôme lui-même d'ailleurs, il dira ça, des gens sans savoir se dressent, ils s'emparent du ciel et nous, avec notre savoir sans cœur, voici que nous nous vautrons dans la chair et dans le sang. Dans le Confession, livre 8e, chapitre 8. Donc on découvre, vous savez, saint Antoine du désert, là, c'était un paysan égyptien, et puis qui avait quelques arpents de terre. Donc ces hauts fonctionnaires comment dire, qui se convertissent à Trèves, bon, bah, ils n'avaient pas fait profession de rhéteurs, en fait, ils étaient des hauts fonctionnaires. Bon, ils étaient passés évidemment par la rhétorique, mais voilà, donc des gens sans savoir se dressent, ils s'emparent du ciel, et nous, avec notre savoir sans cœur, voici que nous nous vautrons dans la chair et dans le sang. Donc vous voyez, il est un peu piqué, mais il y a quand même encore des résistances. Hein. Il prend un exemple qui pourrait toucher beaucoup la génération des 20 ans. Car jusqu'à présent, il était comme un dormeur qui diffère une inévitable levée. Voilà, il est réveillé, mais il est bien dans son lit. Il n'a pas envie de se lever. Il dit ça aussi dans les Confessions, livre 8, chapitre 5. Donc voilà, il reste à traîner au lit, il n'a pas envie de se lever, il sait qu'il doit se lever, mais il n'a pas envie de le faire. Vous savez, c'est une des oraisons, de quatrième oraison, je crois, non, la première oraison après l'Épiphanie, qui dit, donnez-nous la claire vision de ce que nous devons faire et la force de l'accomplir. Hein, c'est souvent en deux mouvements que ça se fait. Hein. Donc pour Augustin, ça sera effectivement en deux mouvements, parce qu'il rechigne encore à mettre sa vie en accord avec ce qui est désormais sa pensée. Alors, comme dans l'Antiquité, on aime bien pleurer, eh ben, il va pleurer dans le jardin d'à côté, et là, il entend une voix d'enfant crier dans une maison voisine, Tolle, legge. Donc à plusieurs reprises, prends et lis. Alors, dans le passage des Confessions, il commente ça, il se dit, mais c'est bizarre, il n'y a aucun jeu d'enfant qui, à mon souvenir, utilisait cette petite ritournelle. Donc du coup, avec sous-entendu, c'est comme il y a une citation de la Bible, toutes les trois lignes dans les Confessions, sous-entendu, ça doit être un ange qui a parlé à travers la voix de cet enfant. Donc il y voit un signe de Dieu. Et il prend, comme un vulgaire charismatique de l'Emmanuel, il prend les lettres de saint Paul qu'il avait sous la main, et il tombe, voilà, donc paf, au hasard, hein, une parole qui lui est donnée, Romains 13, 13, revêtez-vous du Christ et gardez-vous des plaisirs déréglés de la chair. Justement ce qu'il n'avait pas envie d'entendre. Voilà, au hasard, il tombe dessus. Il commente, aussitôt la phrase finie, les ténèbres du monde se dissipèrent toutes comme sous un soleil de sécurité infuse en mon cœur. Donc voilà, il sort du brouillard comme au matin d'Austerlitz. Hein. Voilà, livre 8, chapitre 12. Et on pense que l'événement a dû avoir lieu en août 386. Donc notre Augustin a 32 ans. Alors, véritablement, le brouillard s'est dissipé. Il se retire avec sa mère, qui n'en revient pas, évidemment. Son fils, Adéoda, ses amis, Alipius et d'autres, dans une charmante propriété au bord du lac de Côme, qui s'appelle Cassis Iacum.